Vous allez écouter Sur ma route, une émission réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Sur ma route. Ce mois-ci, le sujet dont nous allons parler est les risques sur la route en deux roues motorisées. Mes invités pour cette émission sont Monsieur Roger Blanc, président du comité motocycliste départemental du Vaucluse. Bonjour Monsieur Blanc.
Bonjour monsieur.
Et Monsieur Thierry Audon de Motopassion, ancien motard de la police nationale. Bonjour Monsieur Audon.
Bonjour.
Alors Monsieur Audon, dites-nous un peu ce que c'est que Motopassion.
Alors Motopassion, c'est un club moto qui existe depuis 1990 et je l'ai déclaré en 95. On a démarré à 17 personnes et on est arrivé à 47 au bout de 2 ans. Et pour être dans les clous, donc il a été déclaré donc en 95. Donc dans ce club, il y a les balades moto et ensuite on a une structure mini moto pour les enfants pour la découverte d'un engin motorisé 2 et 4 roues, c'est-à-dire les mini motos style Piwi ou quad pour les enfants de 6 à 12 ans. D'autre part, nous faisons des stages aussi de sécurité routière avec donc des journées de perfectionnement moto avec Gymkhana et l'après-midi sur piste de karting technique pour tout ce qui est freinage, trajectoire et comportement et attitude sur la moto.
D'accord. Alors, Monsieur Blanc, maintenant, pouvez-vous nous dire ce que c'est que le comité motocycliste départemental du Vaucluse et quel est son rôle ?
Bien, le comité motocycliste départemental du Vaucluse est une association qui est sous la tutelle de la Fédération française motocycliste et en collaboration avec la Ligue motocycliste régionale de Provence afin de faire passer toutes les informations émanant de cette fédération vers la Ligue. Et nous, le but, c'est de la Ligue et le comité d'exploiter tous les clubs afin qu'ils aient toutes les informations. C'est aussi veiller sur toutes les disciplines de la moto, donc en passant par la route, comme vous avez dit tout à l'heure, le tourisme, par la vitesse que ce soit course de côte ou circuit, par le motoball, donc ici sur Carpentras, vous avez une excellente équipe de motoball. Nous avons aussi en charge le motocross, le trial, l'enduro, donc auquel l'enduro en ce moment c'est une grosse problématique, puisque à l'heure actuelle tous les chemins sont fermés de partout, et de plus en plus nous allons sûrement perdre des organisations. Donc c'est de veiller à tout ça, des informations sans arrêt sur Internet et Facebook, des réunions trimestrielles pour mettre à jour tout ce que les clubs demandent et faire des échanges, donc, comme je vous disais auparavant, avec la Ligue et la Fédération française motocycliste.
Alors on va démarrer le sujet par la première question qui est: qu'est-ce que les risques sur la route en deux roues motorisées ?
Bon, alors ça, je vais laisser le soin à Thierry de répondre, puisque Thierry a une formation pédagogique à ce sujet-là avec son staff, auquel le comité motocycliste départemental de Vaucluse, par le biais des subventions du conseil départemental, aide ces journées pédagogiques de perfectionnement sur la sécurité routière, auxquelles nous en organisons, comme on disait tout à l'heure, 2 par an, une au printemps et l'autre à l'automne. Donc je laisserai la parole à Thierry Audon.
Alors, Monsieur Audon, qu'est-ce que les risques sur la route en deux roues ?
Les risques liés à la route, c'est, disons, pour notre philosophie à nous, c'est le fait que quelqu'un passe le permis aujourd'hui, donc il passe un permis, certes, mais après, l'expérience n'est pas comprise dans le prix du permis. Et ce qu'on essaie de faire depuis des années, c'est de faire prendre conscience aux jeunes conducteurs, jeunes pilotes et anciens, de venir de temps à autre faire des journées comme celles que nous proposons. Et donc là, tout y est, c'est-à-dire que le matin, c'est 2 heures en salle pour parler de tout ce qui est juridique, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est réglementation, et etc. Après, on a le Gymkhana, donc maniabilité, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gars qui ont des années de moto, mais quand ils se trouvent dans un système assez technique comme un Gymkhana, ils découvrent leur moto, ils se disent « bon, je pensais que j'étais bon, mais là, je suis pas ». Voilà, donc ça fait prendre un peu conscience. Et ensuite, une partie sur un circuit de karting. Alors, circuit de karting, c'est pas pour faire les vitesses, c'est parce que c'est technique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exploiter trop la moto. Mais par contre, tout ce qui est freinage, posture, mettre sa moto en ligne par rapport à l'environnement. Et ensuite, donc, tout à petit, ressentir sa machine et faire plus qu'un. Tout en restant, humble. Ne pas dire « je suis un champion et je vais essayer de descendre encore plus la moto au niveau de l'inclinaison ». Voilà, donc les risques, c'est tout ça. C'est c'est de faire prendre conscience donc à celui qui a un permis tout juste comme un ancien. Hein. On a des gens qui ont 50, 60 barreaux même passés quoi, et qui viennent et qui restent humbles, qui disent ben, je suis content d'être venu parce que je sens que j'étais dangereux sur ça ou ça. Ça je savais pas. Le freinage par exemple, c'est des gens qui ont comment dire passé des permis sur de l'ABS et ils achètent une moto qui a 10 ans d'âge et qui n'a plus d'ABS. C'est-à-dire que ce jeune là ou ce moins jeune, il est en danger tous les jours. Tous les jours, parce qu'il n'a plus cette assistance.
Il n'a pas appris la nouvelle technique du freinage.
Exactement. Ou l'ancienne
technique. En l'occurrence, oui. Alors, quelles sont les différences entre cyclomoteur, scooter et moto ?
Ben, c'est au niveau de la puissance, c'est-à-dire quelque part puissance avec l'âge. Donc jusqu'à 14 ans, c'est le cyclomoteur ou les scooters, ce qu'on voit tous les jours circuler. Et après donc 14 ans, vous avez 16 ans pour le 125. Et ensuite, au-delà, donc, c'est le A1. Et au-delà, c'est-à-dire à partir de 18 ans, vous passez donc le A2. Le A2, c'est donc 47 chevaux, c'est-à-dire je ne sais plus combien de watts il propose. Et ensuite, une fois que ceci est fait, au bout de 2 ans, vous avez la passerelle. C'est-à-dire au bout de 2 ans, tout se passe bien. Ils vont donc une journée dans l'auto-école où ils ont passé leur A2. Et au bout de cette journée, ils ont 2 heures en salle et 5 heures en roulage. Et ils passent donc à la catégorie ouverte, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus limités.
D'accord. Il faut avoir donc deux ans déjà de conduite pour pouvoir passer la très grosse cylindrée.
Après, au niveau des catégories de permis, pour promouvoir la moto, au niveau de la FFM, ce qui se passe, c'est qu'en 125 cm3, vous avez des garçons qui peuvent conduire des motos sur circuit fermé, hein, on s'entend bien, trial, enduro, vitesse, oui. Course de côte. Et donc, un 125, ils ont 14 ans. Mais il faut qu'ils passent le certificat d'aptitude au sport moto. C'est une journée qui se passe à Pertuis. Ils ont leur certificat. Et donc, après, quand ils prennent l'engagement, le comité les reconnaît. Et dès lors, ils ont leur carte donc, de fédération. Ils peuvent donc venir courir avec des motos d'une cylindrée autre que l'âge qui est donné pour la route. Et après, vous avez, par exemple, pour les 14 ans et plus, ils ont le droit de conduire une 250 cm3.
Sur circuit uniquement.
Voilà.
Mais je pourrais ajouter une petite réponse donc à Thierry. C'est qu'à l'heure actuelle, nous avons Quartararo qui est champion du monde, quoi, et qui n'a pas de permis moto, et qui dit « je n'aurai jamais un permis moto, parce que sur le circuit, je suis en sécurité, et sur la route, j'ai peur de mourir. »
Ah oui.
Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que quelque part, moi, je ne le crois pas. C'est plus un côté, pour bousculer un peu les gens et faire voir qu'ils se démarquent un peu. Parce que quelque part, quand on est un professionnel ou un gars comme celui-ci, c'est au contraire. Dire qu'on prend conscience que la vitesse peut tuer.
On doit être deux fois plus prudent que quelqu'un lambda.
Et donc, quelque part, tant pis, je tire sur lui. Mais pour moi, il a le côté pédagogique et le message. Et pour moi, il n'est pas terrible, quoi.
Alors, sur quel type de voie de circulation à moto c'est le plus risqué ? Les nationales, les départementales, les autoroutes, les voies rapides ?
Mais moi, je dirais que, de toute façon, que ce soit une nationale, une voie rapide ou quoi que ce soit, c'est surtout la vigilance entre l'automobiliste et le motard. Il faut, bien sûr, c'est surtout aussi la vitesse, c'est surtout aussi savoir regarder dans les rétroviseurs de chacun, avoir de bons positionnements derrière. Mais l'accidentologie, pour moi, elle est aussi dangereuse en montagne, sur tout type de route, quoi.
Et justement, quelles sont les principales causes d'accidents ? Est-ce que c'est la vitesse ? Est-ce que c'est les stupéfiants ? Ou encore, je ne sais pas, autre chose ?
Disons que je pense, comme Thierry... Je pense qu'on a la vitesse aussi, ouais, et puis le stupéfiant aussi, quoi.
Beaucoup moins à moto pour les stupes. Voilà. Je sais de quoi je parle puisque je travaillais dans la maison de police, quoi. Et puis police routière. Mais par contre, au niveau alcool, c'est pareil. Il y a un gars qui fait de la moto, j'en ai rarement vu avec 1,50 g dans chaque paupière. Ça, c'est
voilà. Ouais, en moto, en général, l'alcool, ça va pas.
Ça pardonne pas. Après, je voulais faire une précision pour compléter ce que disait Roger. C'est-à-dire que moi, je mets tout, je le répète plusieurs fois, sur le respect et l'éducation. Moi, j'estime que quand on a une certaine courtoisie au guidon, comme en voiture, ça se passe très bien. Vous pouvez le voir tout à chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui sont dans leur voiture, mais ce sont des gens qui font de la moto, 125 et plus. Et bien souvent, quand vous êtes, comme l'a dit Roger, positionné dans le rétroviseur, vous vous êtes fait voir, il est là, il ne me fait pas le forcing, ben, allez, je vais te laisser passer, même des fois au risque de se casser la figure, parce qu'on voit qu'il mord à l'accotement, ils se mettent en danger eux-mêmes pour nous laisser le couloir pour dépasser. Mais je veux dire que quelque part, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut partager la route. route. Alors c'est pas un mot pour faire beau. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que si on a la courtoisie, si on a une certaine éducation, ça devrait se passer mieux et ça se passe beaucoup mieux depuis quelques années parce que beaucoup font de la moto. Comme je dis, c'est des gens qui sortent avec leur famille, qui ne peuvent pas sortir, mais ce sont des motocyclistes. Donc, avec un esprit et une philosophie de pas nous mettre en danger. Quoi.
D'accord. Alors, on va faire une petite pause médicale, et puis on se retrouvera juste après pour continuer l'émission. Vous êtes toujours dans l'émission Sur ma route avec monsieur Thierry Audon de Motopassion, ancien moteur de la police nationale, et monsieur Roger Blanc, président du comité motocycliste départemental de Vaucluse. Alors on discutait pendant la pause là, et donc j'ai quelques petites infos sur la compétition à moto. Dès 12 ans et sur circuit fermé exclusivement, titulaire du CASM, vitesse, cross, quad ou trial, il vous faut le certificat d'aptitude au sport mécanique. À 12 ans, de 50 à 125 cm3, de 14 à 16 ans, de 125 cm3 à 250 cm3 et plus de 16 ans, toutes cylindrées. C'est pareil pour les quads et je rappelle, c'est exclusivement sur circuit. Alors, on continue dans les questions. Là, j'ai une question. Lors d'un accident de deux roues, est-il plus souvent la faute de l'auto ou de la moto ? Qui veut répondre ?
C'est un peu compliqué à répondre parce que dans les deux cas, ça peut être la faute du motard par une vitesse excessive. Ça peut être une faute du véhicule, d'un véhicule par une mauvaise vision de celui qui était derrière lui ou dans un rond-point qui n'a pas fait attention qu'une moto était déjà au milieu du rond-point. Ça arrive fréquemment. Dire qu'il y a plus de... Je pense que... Allez, on va dire... moi, je dirais... je partagerai la poire en deux. Je ferai un bon 50-50. Il n'y a pas plus d'automobilistes qui sont responsables que de motards. Oui. Moi, je partagerai.
Après, comme je dis, on a une vélocité. On a une vitesse qui fait que bien souvent on surprend les gens parce que la moto la vélocité fait la vitesse, vous regardez votre rétroviseur, il n'y a rien, et puis 4 secondes après vous avez un motard derrière, merde je ne l'ai pas vu, voilà. Ouais. Mais c'est aussi à nous motards de dire il ne m'a peut-être pas vu.
Ouais.
C'est là où je vous disais tout à l'heure, c'est toute une histoire de QI aussi, on va être cash hein. Si vous êtes vous allez vite au tas quoi. Donc c'est là où je dis tout le temps, c'est une histoire, il faut partager la route, il faut avoir ce côté respect et de dire bon ben voilà, si on arrive à vivre comme ça, on devrait normalement faire des kilomètres et rester vivant quoi.
Alors, il paraît que le champ visuel est rétréci avec la vitesse. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Ah ben ça c'est certain. Il est certain qu'au plus on va vite, au plus le champ de vision se rétrécit. Ouais. Donc le cerveau, il est axé sur une trajectoire, mais après, très loin, mais de l'autre côté, il ne voit plus rien. Quoi. Donc, oui, plus on va vite, le champ de vision, en voiture, c'est exactement pareil.
C'est pour ça qu'il faut adapter sa vitesse par rapport à la configuration des lieux. Alors on dit vitesse, non, c'est une vitesse inadaptée par rapport au lieu emprunté. Ça, c'est la réalité. Voilà. Des fois, on dit le motard, allez, vive allure, allez. Non, c'est le fait qu'au lieu de rouler à 60, il était peut-être à 80. Et il était dans les clous, mais dans un endroit où il aurait mérité de faire 20 de moins. Quoi.
Ouais. Comment on peut faire pour augmenter sa vigilance ?
Bah, toujours pareil, comme je dis, déjà quand on parle de moto, je prends mon cas, ou pour mes adhérents donc au club motopassion, parce que bon, je suis certes un ancien de la maison de police, mais je veux dire par là que je suis président depuis 32 ans de motopassion. Mais comme je dis, depuis des années, si vous devez rouler dimanche, samedi soir, vous voyez ce que je veux dire. Donc la plupart respectent ça, c'est-à-dire que le dimanche matin, tout le monde doit être avec un œil frais comme frais, et puis donc être présent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut respecter, qu'il faut garder. Quoi.
Et alors sur les grandes routes, et principalement les autoroutes et les voies rapides, est-ce que la circulation interfil est autorisée ?
Alors dans certains départements, ça a été autorisé. Maintenant, je suis moins sûr, je pense que ça a été sur les grandes voies multivoies, quoi. Mais bon, après, comme je dis, toujours pareil, attention, quoi. Il y a une vitesse à adapter par rapport à la circulation. Ça roule à 30 km/h. Si vous arrivez derrière au double, qu'il y en a un qui change de voie, vous n'aurez pas le temps de
Oui, voilà. Parce qu'il y a l'angle mort pour l'automobiliste.
Il y a ça, puis comme je dis, on arrive à moto et dans le rétroviseur, vous n'avez personne en tant qu'automobiliste. Hein. Oui. Et puis au moment où vous avez mis le clignotant, vous y allez, boum, vous voyez un phare qui arrive. À qui ça n'est pas arrivé ?
Oui, c'est sûr. Moi, je roule aussi en moto, je suis en 25, mais je roule aussi en moto et je vois bien ce que ça fait. Le sommeil, est-ce qu'il vient aussi vite quand on est en moto que quand on est en voiture, si on fait un long trajet ?
Il faut faire comme en voiture. Chaque individu est différent. Mais moi, j'estime que la moto prend beaucoup d'énergie. En fait, on se fatigue très vite. Oui. Moi, j'estime qu'au bout d'une heure et quart, une heure et demie, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire la moto, qui est un motocycliste, avec tout le respect qui se doit du dimanche, il faut rester. Et si vous êtes en milieu de montagne, il faut multiplier par 1,5, quoi. Donc, médicalement parlant. Donc, quand vous savez tout ça, il faut pas aller au-delà. Dès que vous avez un petit coup de pompe, c'est facile de mettre le clignotant, faire signe aux copains, on s'arrête, on boit un peu de flotte, on pose le cul sur l'herbe et tout va bien, quoi. Roger, qu'as-tu à dire ?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Thierry, puisque, bon, Il est vrai qu'en voiture, on fatigue, donc en moto, c'est bien plus, puisqu'il y a une attention qui est supérieure à celle de la moto, de la voiture, parce que c'est regarder un peu tout ce qui se passe à côté, c'est maîtriser.
C'est à chaque instant.
C'est le confort.
Tout ce qui bouge est suspect.
Voilà, tout ce qui bouge, comme il dit, est suspect. Et puis le confort sur une moto, c'est quand même pas le pullman d'une voiture, quoi. Donc, plus de vigilance, plus de fatigue. Oui.
Très bien. Que faire et comment réagir si on se trouve face à un motard au sol ?
Allez Roger, donne la tienne, je donnerai la mienne après.
Bien, la première des choses, c'est surtout de ne pas le toucher. Alors, la première chose, c'est surtout de ne pas le toucher. Appeler les secours le plus rapidement possible. Parce qu'en moto, on ne sait jamais ce qui a pu se passer. Ça peut être le coup du lapin, ça peut être un problème dans le dos, ça peut être n'importe quel choc peut apporter une paralysie. Ou éventuellement un décès. Donc, surtout ne pas toucher le motard à terre, mais faire appel au secours le plus rapidement possible.
Et ensuite, surtout, on le voit bien souvent, c'est que dans l'affolement, dans le stress, il n'y a personne qui est en amont ou en aval, ou rarement. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'arriver, il n'y a personne, mettez-vous 100 mètres avant et faites signe qu'il y a un souci. Ah oui, bon, il y en a qui percutent parce que c'est vrai qu'ils sont tellement. Il y a un copain qui est par terre ou une amie et qui fait que. Et donc, ça, c'est terrible, mais c'est récurrent. C'est souvent qu'une fois qu'arrive le problème, l'accident, on ne sécurise pas les lieux, quoi. Donc, qu'il y en ait qui s'occupent, comme vient de dire de Roger, avec tout ce qu'il vient de dire qui est très, très bien. Et après, il faut qu'il y ait obligatoirement pensé à sécuriser les lieux.
D'accord. Bon, on va parler des équipements dans un petit moment. On va faire une deuxième pause musicale.
Times I wasn't even now.
Nous sommes toujours dans l'émission Sur ma route avec monsieur Thierry Audon de Motopassion, ancien motard de la police nationale, et monsieur Roger Blanc, président du comité motocycliste départemental du Vaucluse. Alors, en troisième partie d'émission, on va parler des équipements pour la moto. Alors, quels sont les équipements obligatoires sur un deux-roues motorisé et quels sont ceux que vous conseillez, monsieur Blanc ?
Bon, alors, moi, en tant que responsable technique à la Fédération française de moto, je vais vous répondre. Donc, un casque homologué. Alors, sachez aussi que les gens qui vont acheter des casques dans les années qui arrivent, la réglementation va changer, c'est-à-dire on va changer. Avant, c'était du 05-22, on va passer au 06-22. Donc, sachez, amis motards, que si vous achetez des casques pas chers en ce moment, vous allez le garder 2 ans au maximum. En sachant qu'un casque, s'il prend des gamelles, ben, il est de suite mort. Il ne faut pas essayer de le remettre. Et qu'après, un casque, s'il est bien entretenu, c'est maximum 4 ans. Après, sur les équipements, donc, vous avez aussi la dorsale, qui est très fortement recommandée, même sur la route. En compétition, tout ça, c'est obligatoire. Les gants coquets avec le pictogramme moto, ça, il faut bien y penser. Et surtout, messieurs les motards, évitez de faire de la moto avec des tongs et des baskets. Moi, je vous recommanderais qu'en ancien motard, prenez une bonne paire de bottes et vous verrez, vous en serez conscient et vous serez beaucoup mieux. À l'heure actuelle, il existe beaucoup de nouveaux vêtements qui sont homologués, bien sûr, mais qui restent quand même un petit peu au niveau des chocs sur la route. Quand on glisse le goudron, il faut penser que le goudron, c'est une râpe à fromage. Et la râpe à fromage, ça fait mal. Et selon le textile qu'on a dans son blouson, eh bien, il y aura brûlure systématiquement. Donc, messieurs, faites attention quand vous achetez tous ces vêtements-là.
Et les dames aussi.
Évitez d'acheter des vêtements à base de nylon.
D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose, hein, monsieur
Audon ? Disons que sur la sécurité, il faut adapter son équipement par rapport au concept. De l'or, une moto, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que on est vulnérable et la seule carrosserie, c'est notre corps. Et comme l'a dit Roger, il faut adapter un blouson léger l'été, mais au moins s'obliger à porter un blouson léger à nid d'abeilles qui font aujourd'hui, qui vont très bien. Et après, au niveau des membres inférieurs, avoir un minimum un jean, un bon jean, quoi. Et puis des chaussures fermées, je dis pas des bottes, mais au moins des chaussures montantes. Moi, je sais que dans notre club, quand les gens viennent, bien souvent, ils viennent avec ces petites tennis, là, chaussures de sport montantes, juste là, ils me disent, oui, mais tu vois, c'est coquet, c'est homologué. Je dis, c'est pas homologué pour moi. J'ai dit, moi, j'en ai vu des tibias péronnés dehors. Pourquoi ? Parce que ça, c'est des chaussures d'après-moto, mais pas pour faire de la moto. La moto, c'est une bonne paire de Rangers. Voilà, après, si on n'a pas le sou, on va dans le broc, on prend. Et ensuite, aujourd'hui, il existe plein de brocs où on vend des bottes d'occasion. Il faut les faire désinfecter, vous remettez ça, vous repartez, mais au moins faire le minimum. Moi, je l'ai fait, j'avais 16 ans, je n'ai pas beaucoup de sous, c'est comme ça que j'ai démarré, c'est pour ça que j'en parle. Et mais toujours prendre conscience de se protéger, ne pas se balader sans gants. Ensuite, comme l'a dit, un casque homologué, mais adapté aussi à la moto. Parce que quand je vois certains, ils sont avec un casque ouvert, la mâchoire bien dégagée. Quand il y a une chute, c'est des multiples fractures au niveau du maxillaire inférieur et le nez cassé, et sans parler d'autre chose. Alors que bien souvent, quand vous avez un casque ouvert, mais simplement avec une protection en fer de part et d'autre, donc de la mentonnière, eh bien déjà, ça protège. Mais donc voilà, il faut un minimum, mais garder ça en tête, c'est quand même se protéger, quoi.
Alors récemment, j'ai vu à la télévision qui parlait de blouson airbag. Pouvez-vous un peu nous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne ?
L'airbag, je dis que c'est une belle chose, c'est bon. Mais plus ça va et plus on est assisté de tous les côtés. C'est-à-dire que vous avez une voiture, assistance aussi, anti-patinage, vous avez l'assistance au freinage, vous avez l'assistance que si vous allez sur le bord, ça sonne, il faut que pour que vous reveniez dans l'axe. Et moi, quelque part, si je fais de la moto, c'est pour, faire de la moto, c'est 2 roues, un moteur, une paire de freins. Et donc, s'équiper. Maintenant, au niveau de l'airbag, c'est une bonne chose parce qu'il faut progresser. Mais bon, quelque part, le côté, il y en a mécanique, il y en a qui sont avec un système électronique. Les premiers, vous partiez de la moto, vous avez le cordon attaché à la moto, manque de bol, vous l'oubliez, bah, ça se déclenchait. Ouais. Donc, c'était un peu comique que je veux dire. Mais moi, quelque part, pour faire bref, maintenant, moi, je dis, pour ceux qui le veulent, oui, pour moi, je ne mettrai jamais un airbag. C'est pas bien de parler comme ça. Chacun son truc. Je suis à moto, donc je fais attention. parce que l'airbag, l'assistance, machin et tout, ça va faire certains cerveaux, je peux ouvrir parce que je risque rien.
C'est ce que je pensais. On se sent trop en sécurité avec le blouson. Je dis, j'ai les blousons, les gants et tout. Je dis, je peux y aller à fond. Et puis,
à fond, mais ouais. Voilà, se sent moins vulnérable et protégé. Alors que c'est faux, c'est faux.
Moi, j'avoue que quand je prends ma moto et que je mets mon blouson de motard, je roule plus vite que si, par exemple, je vais à l'épicerie du coin acheter une baguette de pain. À ce moment-là, j'y sors en t-shirt parce que je vais faire 10 minutes de moto.
Ouais. Mais... Moi, je vois pour nous, on est 57 adhérents. Et donc, sur ces 57, vous en avez 7-8 qui sont avec... et qui ont tous... J'ai pas dit ce que je pensais. Là, on me posait la question, mais moi, et la plupart sont comme moi, c'est-à-dire que ce sont des motocyclistes, des gars qui ont 50 barreaux et plus, et d'autres plus jeunes. Mais l'airbag, oui, mais pas pour moi. Je mets ma, comme il a dit, la dorsale, c'est déjà une bonne chose, mon blouson coquet, et après, je roule avec mon QI, quoi. Terminé.
Ah, et puis l'airbag, il y a une chose aussi, hein. C'est bien beau, mais si vous chutez, faut pas essayer d'avoir la cartouche pour recharger.
Ouais.
Sinon, vous n'avez plus rien, quoi.
Oui, c'est sûr.
Ouais, mais ça, je pense que quand tu as pris une boîte, je pense que déjà l'airbag, il est mort. Et après, s'il n'est pas... chose à laquelle on doit passer.
On peut l'utiliser plusieurs fois, quoi. Mais comme dit M. Blanc, il faut une recharge de gaz pour qu'il puisse se redéclencher. On va parler sanctions. Les sanctions pour non-port de casque, non-port de gants ou excès de vitesse. Pouvez-vous nous dire un peu les différentes sanctions qu'on risque en moto?
Moi, je pense, en fait, sans vouloir... les gens savent très bien que s'ils n'ont pas un casque, ils sont verbalisables, quelle que soit la somme. Moi, je pars du principe que c'est complètement idiot de prendre un deux roues, quelle que soit la cylindrée. Dès lors qu'on prend un engin comme ça, on doit se protéger. Donc, la tête, les gants, etc., etc. Vous savez très bien que vous ne devez pas franchir un stop sans mettre le pied par terre, en moto. Vous savez très bien que le feu rouge, c'est un feu rouge, et quand c'est l'orange, je se prépare à s'arrêter. Donc ça, voilà. Alors donc les sanctions quand je fais mes déplacements dans les lycées pour en parler. Et comme je dis, les jeunes, je dis, vous avez un âge où vous savez très bien ça depuis tout petit, vous l'entendez. Après, c'est à vous de prendre conscience que si vous êtes pas raisonnable, eh bien, il va falloir payer. Parler de 135 €, 68 €, pourquoi faire ?
Ouais.
Enfin, moi, c'est ma philosophie.
Il y aurait toujours quelque chose à payer si on est en infraction. Alors tout à l'heure, pendant la pause, on parlait de nuisances sonores. Alors, dites-nous un peu ce que vous pensez des motos bruyantes, Monsieur Blanc.
Eh bien, les motos bruyantes sont en train de casser le monde de la moto, hein, puisque il suffit que, au milieu d'un groupe de 5 motards, il y en ait un qui fasse du bruit. Eh bien, sûr, quand ils vont traverser le village, tout le monde va dire, ces motards-là, ils sont en train de nous casser les oreilles, ils sont en train de faire ci, ils sont en train de faire là. Alors sachez qu'à l'heure actuelle, la Fédération française de moto est en train de travailler là-dessus très fortement et auquel déjà en compétition, dans les 2 ans à venir, nous allons être obligés de baisser de à peu près 10 dB. Donc c'est déjà très important. Sachez aussi que les constructeurs de peau travaillent là-dessus aussi et ont été informés par la Fédération française et la FIM, la Fédération internationale de motocyclistes, pour pallier à tout ça. Et ainsi que les constructeurs. Donc ils se sont déjà réunis il y a un an et ils y travaillent fortement dessus. Après, amis motards, sachez que d'aller acheter une ligne qui vous coûte une blinde, ça ne sert à rien parce que vous n'irez pas plus vite, vous ne gagnerez pas plus de chevaux. La seule chose, c'est que vous allez, excusez-moi, mais embêter tout le monde et détruire votre passion.
Monsieur Audon,
Disons que moi, comme je dis, il y a bruit et mélodie. Alors bon, je vais passer pour un poète, mais bon. Je veux dire par là qu'il y a bruit et puis son. J'habite Bédouin et il est vrai qu'on entend monter les motos le week-end. Et je peux comprendre pas mal de gens. Je fais de la moto, mais je reste honnête. Mais parce que ce sont c'est vraiment du bruit, quoi. C'est assourdissant, c'est pas supportable, quoi. Et ils sont une petite minorité. C'est pas tous les moteurs, c'est quelques-uns. Donc je mets ça sur la jeunesse. J'ai eu 20 ans aussi, j'avais à l'époque un 7,5 four pour ceux qui connaissent, ceux qui nous entendent. Et c'était 47 mm de diamètre pour piste de ville. Et donc j'ai pas oublié aussi que j'ai pu casser les pieds à mes voisins. La différence c'est que quand j'arrivais donc sur Bédon, puisque j'avais 8 Bédon, je mettais la poignée légèrement vers le bas, et de façon à rentrer et faire comprendre au bruit que je rentre à la maison et ça je vais vite arrêter. Voilà. Et puis là, aujourd'hui, cette minorité, comme il a dit, pour certains, c'est le bruit égale puissance et surtout se faire remarquer, quoi. Je pense qu'il y a un peu ça. C'est le fait, si je fais du bruit, on arrive au ventoux, je dis ça parce que je me suis amusé deux fois à le faire. Et donc, ça fait un bruit, mais des fois, certains n'avancent pas. Puis il y a des machines de 600 cm cubes. Vous êtes, comment dire, en quatrième, cinquième, vous montez à 7-8 000 tours. C'est des petits moteurs et ça hurle. Donc les gens ils montent comme des fous, alors que non, ils ne sont pas en excès de vitesse. C'est que c'est des moteurs qui tournent très vite. À 1 000 cm cubes, à 100 km/h, vous êtes à 3004. Donc la différence, elle est vite faite. Et ils roulent, bon. Et donc, j'ai observé que certains arrivent et sont très fiers d'avoir fait du bruit, que tout le monde les regarde. C'est assez marrant. Alors comme je l'ai marqué sur mon petit papier, ce qui est dommage, c'est que le comportement d'aujourd'hui va nous sanctionner dans un avenir proche. Et il semblerait qu'une petite minorité, comme je l'ai dit, n'ait pas conscience de ce qu'ils font. Et donc là, quelque part, on est, comment dire, on rentre dans une nuisance dite sonore, et c'est vrai, qui dérange et nous font détester. Et donc, moi, comme je dis, qui suis motard, je dis, oui, on n'est pas raisonnable. Mais comme je dis, c'est une petite minorité. Alors maintenant, comme je dis, ce qui serait bien, c'est mettre des actions de prévention pendant 2 mois avec la gendarmerie, motorisée, au moins ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent, ou de la police nationale selon les secteurs, et mettre en garde ces gens-là, qui se sentent concernés, s'il y en a qui m'écoutent, et surtout de faire de la prévention, et dire aujourd'hui, c'est bon, on prend votre nom, votre prénom, mais il n'y aura pas de prochaine fois, on prend la plaque et vous recevrez à la maison. Donc les choses sont claires. Mais là, est-ce qu'il y a une volonté? Alors je ne veux pas taper sur monsieur le préfet ou madame la préfète, qui va sans doute arriver, ou elle est arrivée, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut se poser des vraies questions. Parce qu'il ne faut pas planter, comme le dit Roger, toute la communauté motarde pour une petite minorité de gars et de filles, hein, parce que la moto, c'est masculin-féminin.
Eh oui,
donc
sûr.
Voilà, posons-nous les vraies questions. Qu'est-ce qu'on veut faire,
hein? Bon, moi, j'apporterai à ce sujet aux amis motards, parce que personne ne sait combien ils doivent avoir. Ah, mais moi, je ne sais pas combien de dB je dois avoir à mon moto. Alors, il est facile, messieurs les motards. Vous prenez votre carte grise, et dans votre carte grise, vous avez un U1 qui vous dit le nombre de dB. Alors, ça peut être 90, un Ducati, c'est 102. Ça, je le sais. Et après, vous prenez U2 qui vous donne le nombre de tours auquel la machine a été homologuée. Et là, vous devez être dans les clous. Si vous dépassez, eh bien, c'est que vous n'êtes pas bon et vous êtes verbalisable.
Tout en sachant qu'aujourd'hui, vous avez une application sur nos smartphones, etc., etc., que l'on peut aller chercher. Et donc, vous mettez ça. Bien sûr.
Vous mesurez.
Bien sûr. C'est pour ça que celui qui me dit, mais oui, mais bon, moi, j'ai pas l'appareil. Attends, il y a pas mal d'applications pour des trucs complètement. Et là, prends l'application et fais le test. 4200 tours, tu dois faire quoi? 90 décibels. Voilà. Au moins, il n'y a plus d'excuses.
Ah ouais. On arrive en fin d'émission, là. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? Ou parler peut-être des prochaines manifestations moto qu'il y aura dans la région?
Les prochaines manifestations, on arrive presque en fin de saison. Donc, nous avons encore du motobrawl qui va se pratiquer jusqu'à fin octobre, début novembre. Après, nous aurons encore une paire d'enduro et nous avons encore une paire de motocross. Donc, normalement, nous avons encore des épreuves en Ligue motocycliste régionale de Provence qui vont s'organiser. Normalement, il y a un motocross programmé à Pernes et une endurance programmée sur Mazan. Et ainsi que, comme je vous dis, les matchs de motoball entre Carpentras, Monteux, Valréas, tout ça dans le Vaucluse. Donc, ce que je dirais aussi, c'est que le comité motocycliste départemental de Vaucluse est là pour informer les clubs, comme je vous disais au début, mais aussi qui veille à les aider financièrement et matériellement par le matériel qu'on peut leur proposer. Aussi, on a un budget aussi à ce sujet-là pour la formation, auquel, bien sûr, avec ce budget-là, on participe avec Thierry Audon en motopassion, aux journées sécurité organisées 2 fois par an, et auxquelles je crois que Thierry en a une bientôt de programmée, là.
Le 16 octobre.
Voilà, donc,
Le 16 octobre, c'est la Fédération française des motards en colère qui m'a contacté, et qui, à la suite d'avoir vu les vidéos sur Facebook sur Motopassion 84, là, je me fais ma pub, et donc ils sont venus nous voir, et ils disent, bon, ça, on est, parce que je suis quelqu'un qui suis un petit peu, comment dire, qui grogne par rapport au permis de conduire que l'on fait passer. Pour moi, le plateau, tout ça, ne tient pas à la route, c'est-à-dire, c'est pas adapté
à la réalité.
Non, c'est pas la réalité. Et donc, moi, je fais un gymkhana qui est issu de la police nationale, c'est ce que j'ai fait quand je suis rentré jeune motard, et là, vraiment, c'est ardu. Mais au moins, quand on sort, on transpire, parce qu'on s'est dit, on s'est donné. Et donc là, la FFMC donc, est venue, nous a demandé, et le 16 octobre, vous regardez sur les pages Facebook pour ceux que ça intéresse, alors comme je dis, c'est ouvert à tout le monde, nous faisons cette journée, mais il faut passer par eux, c'est eux qui prennent les inscriptions. Donc ça s'appelle une journée perfectionnement moto, donc théorie 2h le matin, gymkhana pendant 1h30, et après l'après-midi sur circuit de karting.
Très bien. Eh ben, Monsieur Audon, je vous remercie. Monsieur Blanc, je vous remercie.
Merci également.
Je rappelle que Monsieur Audon, vous êtes de Motopassion, ancien motard de la police nationale. Et Monsieur Roger Blanc, vous êtes président du comité motocycliste départemental du Vaucluse. Et je vous souhaite à tous bonne route.
Ben, pareillement pour vous, parce que vu que vous en faites partie aussi. Bonne route.
Au revoir.
RTVFM vous a présenté l'émission Sur ma route, réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse.